Bonjour à toutes et bonjour à tous, et surtout, bonne année 2023. On est début janvier, donc je pense qu'on peut encore se le dire. Voix Enchantée continue cette année, toujours avec un ou une invitée qui vient nous parler de ses goûts artistiques, lire un texte personnel, bref, partager plein de choses avec nous, et en fait, construire un peu son portrait radiophonique à travers ses goûts. Voix Enchantée.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Et cette saison 2023, on l'ouvre avec Pauline, qui est au studio en ce moment à Radio Campus Paris. Salut Pauline.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, si tu as des hobbies particuliers, ce que tu fais dans la vie en ce moment, tout ça, tout ça.
Alors, moi, je fais des études en ce moment. Des études de cinéma, parce que j'aime écrire et du coup j'apprends à écrire des scénarios. Et avant ça, j'ai fait des études d'histoire de l'art.
Ok, trop cool tout ça. On va tout de suite passer à la première étape de l'émission, qui est celle du choix d'un artiste qui te touche particulièrement. Et c'est pas facile, parce que c'est comme quand on demande à quelqu'un « Dis-moi ton film préféré, dis-moi ton artiste préféré ». Enfin, plein de gens se dédouanent et ne veulent pas du tout répondre à cette question. Alors là, c'est pas forcément ton artiste préféré, mais c'est quelqu'un qui te fait de l'effet par son travail.
D'accord, oui, c'était difficile de choisir. Du coup, je voulais parler d'une artiste qui s'appelle Juliana Serafim, que j'ai découvert cet été, en fait, quand j'étais en stage dans un musée à Beyrouth, au Liban. Et donc c'est une artiste du XXe siècle qui a grandi et qui s'est formée entre le Liban et la France et qui fait des peintures que je trouve incroyables en fait. Ce sont des peintures surréalistes où on voit souvent des mondes un petit peu enchantés et des femmes qui sont représentées comme des fleurs et qui ont souvent un port altier, on dirait des princesses ou des reines qui règnent sur leur royaume. Et pour moi, ça excite beaucoup mon imaginaire. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé découvrir son travail.
Et donc, tu as vu son travail en vrai. Tu as pu voir la matière de ses peintures de tes propres yeux.
Oui, c'était ça qui était bien. Alors après, c'est assez particulier parce que pour le coup, ce musée, il est fermé au public. Donc comme je travaillais là-bas, j'ai pu un petit peu voir le travail de ces auteurs, de ces artistes, mais plutôt dans les réserves, parce qu'en fait c'est un musée qui a subi beaucoup de dommages il y a 2 ans lors de l'explosion du port à Beyrouth. Donc bientôt il va rouvrir et j'espère que je pourrai voir les œuvres quand elles seront à nouveau exposées.
Et avec d'autres gens aussi dans les salles de musée, quoi.
Voilà.
Et tu parlais d'imaginaire, c'est vrai que moi aussi j'ai pu voir, mais bon, sur des pages, on va dire, webisées, du coup, c'était pas peut-être le même effet. Mais il y a ce côté où elle va créer un imaginaire à travers ses peintures, et ça va, toi, faire quelque chose dans ton imaginaire, sous quelle forme, par exemple. Il y a des histoires qui se créent. Je sais pas, moi, des fois, je regarde des tableaux, et c'est comme si le tableau prenait vie, et qu'il y avait comme une histoire qui naissait d'une image fixe, quoi. Est-ce que ça te fait ça avec son travail à elle ?
Ouais, carrément, parce que c'est... Oui, je sais pas, c'est des mondes à chaque fois qu'elle invente. Il y a des palais, il y a des paysages entiers peuplés de personnages. Alors du coup, c'est vrai qu'on s'invente des petites histoires avec ces petits extraits de vie.
Il y a pas mal d'influences qui me sont venues en tête quand j'ai regardé ces tableaux. Enfin, tu parlais des surréalistes, Dali, mais même un peu Picasso. À un moment, je me suis dit, ah marrant, ça me fait penser à des tableaux de Picasso. Mais même à Archimboldo. Vous savez, ces visages en légumes et en fruits. Et là, en fait, c'est des fleurs. Donc, j'étais en mode aussi, oh, Georgia O'Keeffe. Enfin, au-delà du name-dropping d'influence que ça m'a provoqué, est-ce que tu penses que cette artiste-là, elle s'est influencée comme ça d'autres mouvements, d'autres artistes qui font écho à son travail? Ou toi, même en les regardant, tu n'as pas forcément vu d'autres échos?
Peut-être que je ne connais pas assez ces influences, mais... C'est vrai que c'est pas mal le Archimboldo, parce que c'est plus ou moins ça. C'est des visages qui sont très travaillés, des costumes aussi très travaillés, où on voit des corolles. Ça fait plutôt appel au monde des fleurs, mais c'est, le parallèle est assez cool.
« Après la peinture, un peu de musique, avec ton coup de cœur musical, Pauline, est-ce que tu peux nous annoncer le nom du morceau et le nom des artistes ?
Alors, Le Train du Soir, c'est le nom du morceau. Les artistes, effectivement, c'est un duo du coup qui a chanté pour cette chanson. C'est Pomme et Raphaël, donc deux artistes que j'aime beaucoup aussi. Et
on écoute tout de suite ?
Ouais.
Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Le train du soir file vers toi, file vers toi. Du vent dans les cheveux et le bruit des essieux, nos souvenirs qui sont en feu. Le train du soir file vers toi, derrière les montagnes, le dernier ferry pour le paradis. La compagnie, les soldats du corail qui boivent, qui chantent. Qui déraille, qui déraille, qui déraille, qui déraille. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai. Mais je ne pleurerai pas, je ne pleurerai pas.
Le train du soir file vers toi, sans direction, sans chauffeur. Derrière le moteur, j'entends battre ton cœur. Le dernier ferry pour le paradis. La mer sera-t-il cette nuit?
Je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Mais je ne pleurerai pas.
Mais je ne pleurerai pas.
Alors Pauline, pourquoi ce morceau ? Qu'est-ce qu'il t'évoque ?
C'est une chanson qui évoque les voyages en train et qui est elle-même très entraînante, qui a un rythme assez élancé. Et puis les paroles aussi, elles sont un peu comme une ritournelle et ça rappelle le ronron du train qui nous berce quand on est dedans. Et je sais pas, les voyages en train, moi ça m'évoque toujours ce fil tendu entre nous et les personnes qu'on rejoint, les personnes qu'on aime.
Et cette chanson, tu l'écouterais dans un voyage en train, en ferry, tout ça, ou ça ferait trop redondant pour le coup ?
Ah non, j'adore écouter les musiques de... J'ai beaucoup de musiques des chansons de train. J'ai une playlist entière de chansons de train que je peux écouter dans le train.
Et celle-là en fait partie du coup ?
Oui.
Alors aussi, tu parlais de ritournelle, il y a ce côté répétitif et entraînant, enfin, on parle de voyage en train, en transport très humain, mais moi, comme tu parlais de quelque chose qui rebondit, je voyais aussi des galops de chevaux, quoi. Genre, on avance, quoi, on y va. Donc, quelque chose un peu animal. Et là, je voulais te parler du côté répétition de « je ne pleurerai pas, je ne pleurerai pas, je ne pleurerai pas », alors qu'ils ont tous les deux un espèce de chagrin mélancolique dans la voix, que ce soit Raphaël ou Pomme, ils sont connus pour ça, pour cette mélancolie. Est-ce que le fait qu'ils disent « je ne pleurerai pas », tu y vois de l'espoir comme ça, ou... Limite, c'est un appel aux petites larmes qu'on verse sur la vitre du train.
Non, je pense que c'est une sorte de mantra qu'ils essayent d'élaborer. Et oui, souvent, en passant par la négation, on exprime finalement ce qu'on ressent au plus profond de soi. Et je pense qu'effectivement, c'est toujours bouleversant de retrouver quelqu'un.
Et autre chose que je voulais te demander, c'était par rapport aux images que ça crée. Parce qu'on parlait, enfin, tu nous disais dans ta présentation que tu aimais écrire. Et avec la peinture, on parlait aussi des imaginaires que les images peuvent créer. Et là, la chanson, c'est du texte. Bon, tu me diras, il y a toute une musique entraînante. Mais il y a quand même des paroles qui nous évoquent plein d'images. Je sais pas, il y a quand même le soldat du corail, quoi. On voit à la fois quelque chose de très concret, un soldat, quelque chose de très humain, et boum, le corail, l'océan, le ferry du paradis. Eux aussi, ils jouent sur l'imaginaire, non ?
Moi, j'aime trop les chansons où souvent il y a peu de paroles et qui sont voilà, comme une ritournelle, qui sont parfois un peu lancinantes parce que justement, elles deviennent... comme elles sont un peu proférées comme des formules magiques à répétition, elles ont une nouvelle symbolique, une nouvelle importance, et elles deviennent encore plus évocatrices. Et du coup, là, elles sont encore plus évocatrices, ces paroles de refrain, je ne pleurerai pas, parce qu'elles sont agrémentées de ces petites touches complètement oniriques, des petits couplets que chantent Pomme et Raphaël.
Pauline, on va passer à ton partage de texte. C'est un texte que tu as écrit, que tu as décidé de nous lire, et peut-être qu'avant de le lire, tout simplement, tu peux nous le contextualiser, c'est-à-dire quand est-ce que tu l'as écrit, si tu l'as écrit pour l'émission ou plus tôt.
C'était un texte que j'avais écrit lorsque j'ai passé un concours d'entrée pour une école. On nous demandait d'écrire un texte documentaire. Et moi, j'avais décidé de partir à la rencontre d'un routier qui conduit des poids lourds et qui s'appelle Cyril. Et je voulais saisir de quoi était fait son métier sur les routes.
C'est intéressant, ça, texte documentaire.
Ouais. Donc, j'ai un peu écrit ça comme un carnet de bord. Et donc là, je vais vous parler du moment où j'ai retrouvé Cyril au milieu de la nuit sur une station de relais routier.
Ok, on t'écoute, merci beaucoup.
Une première étape du voyage. Je trépigne sous les néons du relais routier du Havre. Dans mon dos, d'innombrables camions dorment en rang serré. Des hommes passent, le dos voûté. Aucun ne s'arrête. Cyril ne répond pas au téléphone. Puis soudain, un appel de phare au milieu de la nuit. Un camion approche lentement. La porte s'ouvre du côté passager, une tête surgit et ces mots. Je ne descends pas, je suis en chaussettes. J'inspire un grand coup et je me hisse dans la cabine à 2,50 m du sol, en m'agrippant aux rampes. Le siège rebondit sous moi. Désolée de t'avoir fait attendre. Je crois qu'on saisit tous les deux l'absurdité de cette situation car Cyril se met à rire. Moi aussi. Puis il démarre en trombe. Le camion traverse la zone industrielle au portuaire du Havre. Les cheminées des raffineries crachent des flammes qui déchirent la nuit. Le territoire est un chaos. Il y a des silhouettes de grues, des fumerolles et des monstres d'acier auxquels s'agrippent des éclairages électriques. J'ai l'impression d'échapper à la fois aux flammes de l'enfer et aux attractions d'une fête foraine. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'étais un vrai aventurier. Je partais toujours en vadrouille. Cyril a l'air persuadé qu'on est aussi affranchis l'un que l'autre. Ça me plaît. J'aime l'idée d'être aussi libre, vagabonde, que peut l'être un routier comme lui. J'ai envie de le croire. Il me raconte ses chemins de traverse. Il a fait la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, Autriche beaucoup, Italie aussi beaucoup, République tchèque. La lueur de la ville s'éloigne. Bientôt, seul le néon rouge de la cabine vient d'un bel visage de Cyril. Nous bifurquons vers le pont de Normandie. Durant l'ascension, le moteur vrombit, tire dans ses réserves. Malgré la nuit, je sens l'immensité du pont. Cyril me dit « Regarde, on va voir le Mont-Saint-Michel. » Il fait déjà nuit, on ne voit rien. Seulement un panonceau marron qui indique le site. Mais dans ce hors-champ, ce noir profond, j'imagine au loin les ombres d'une tour de Babel. Le voyage peut commencer.
Merci beaucoup Pauline pour ce partage de texte qui était très nocturne, j'ai trouvé. Merci beaucoup. On va maintenant tout de suite passer à ton œuvre phare qui est un film, je crois. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots, peut-être ce que c'est et peut-être l'histoire aussi. C'est cool d'écouter des histoires à la radio.
Il y a une réalisatrice que j'aime beaucoup. Elle est italienne, elle s'appelle Alice Rovacher. Et là, j'aimerais parler d'un film qui s'appelle Les Merveilles. et qui parle d'une famille qui vit dans la campagne étrusque. Donc c'est un père, une mère et toute leur ribambelle de filles. Et ils vivent un petit peu en huis clos. Dans leur monde un peu merveilleux, ils sont apiculteurs. Et jusqu'au jour où une émission de télé-réalité vient s'installer dans les environs et vient un peu perturber justement leur sorte d'Éden, comme ça. Et donc c'est ce monde moderne qui vient entraver la vie du monde agricole qui était avec son hiératisme durant toutes ces années.
On peut écouter un petit peu d'italien.
Sta attenta.
Più su, babbo. Così.
Fumo, Giosimina. Se sta meglio da sole, no? Vabbè, aiutami, dai.
Bräuchtest einen Sklaven, Wolfgang. Nicht vier Töchter wie die.
Non state a fa vacanza.
Dimmi.
Pauline, on entendait parler là des personnages en italien et on entendait aussi des abeilles qui faisaient leur petit bruit d'ailes. Toi, le monde agricole, le monde paysan, dans les films, c'est quelque chose auquel tu es sensible ?
Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et surtout dans les films de cette réalisatrice parce qu'elle en montre à la fois leur aspect un petit peu fantasmé et en même temps aussi... Elle leur montre toujours leur aspect mélancolique, donc peut-être que ça va ensemble, hein. Peut-être que parce qu'elle a une image très belle de ce monde-là, elle le voit, elle le décrit avec mélancolie, et elle le décrit avec mélancolie parce que c'est un monde qu'elle pense en train de changer, en train de muter, sans retour en fait. Et dans ce film-là, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que ce père, il s'attache vraiment à ce vieux monde, alors que ses filles, elles n'ont qu'une seule envie, c'est un petit peu de s'en échapper, aller voir ce qui se passe aux alentours, au niveau de cette télé-réalité. Elles veulent participer à ce jeu télé. Et donc voilà, elles sont très belles dans cet appel vers l'ouverture au monde aussi.
Et tu dirais que c'est une vision sclérosée ou pas de ce monde-là de cet ancien monde représenté par ce père autoritaire qui peut faire penser aussi à un schéma dans un conte, quoi. Le père castrateur et puis les jeunes filles qui veulent vivre leur vie. Tu dirais que l'image, elle est un petit peu comme ça, sans espoir, ou au contraire, sans révéler tout le film, mais il laisse la possibilité à ses filles d'aller vers cette porte ouverte.
Oui, bah alors c'est toute l'idée du film, qu'au début... Il les emmène dans un schéma traditionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, donc ce sont des filles, en fait, qui doivent reprendre cette ferme, et non pas parce qu'il n'a pas eu de garçon, finalement. Et donc, c'est sa fille aînée qui est destinée à devenir elle-même apicultrice. Et lui, il est complètement, finalement, les bras lui tombent quand elle décide que, elle a envie d'autre chose, elle a envie de participer à cette émission-là, elle veut un petit peu dévier du schéma familial, finalement. Et donc, ça met la pagaille dans la famille, effectivement. Et ce père, comme ça, très omnipotent, ce modèle-là, il est mis en crise aussi. Mais avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour tous les personnages, oui, sans cynisme.
Et sur l'univers du conte, qu'est-ce que tu dirais ? Ça te fait penser un petit peu à ça ? Ou on reste quand même dans quelque chose de très réaliste et social, d'une représentation du monde paysan ?
Bah non, justement, c'est ça qui est très beau et qu'on remarque dans les films, dans les différents films d'Alice Horvacher, c'est qu'il y a toujours une pointe de magie, de réalisme magique, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, même cette émission ultra-moderne qui vient s'imposer à côté d'eux, c'est une émission qui met en scène une fée comme ça, provenue de l'ancien temps, du temps des Étrusques. Et donc là même, on remet en scène de la fausse magie, on ajoute du fantastique dans cet univers très réaliste.
On arrive à la toute dernière étape de l'émission, qui est celle de la bribe de phrase entendue dans l'espace public ou privé. On a dit qu'on faisait plus trop de distinctions. Si tu as entendu une phrase absurde dans ton salon, c'est OK, on veut bien l'entendre. Mais on veut bien que tu nous la contextualises surtout.
Alors, ça, c'est une phrase que j'ai entendue pendant ces vacances. J'étais en Italie, justement, et on était dans des petites ruelles à Venise. Et on croise un vieux couple chic, des Français. Donc, c'est toujours drôle d'entendre un petit peu de français, comme ça quand on est dans un autre pays. Ça fait toujours une sensation rigolote. Et c'était une femme qui déclarait « Alors, t'as utilisé Tinder ici ?» Et la réponse, alors que le couple nous avait déjà dépassé dans l'autre sens, c'était « Ouais, c'est pas ouf ». Alors la chose amusante, c'est que moi je pensais que c'était son mari qui lui avait répondu. Alors je m'étais imaginé tout un truc sur deux vieux libertins comme ça. Et en fait, c'était leur fils qui était devant eux qui leur avait dit ça.
Ok, ben, merci beaucoup Pauline d'avoir été la voix enchantée du jour. On se retrouve le mois prochain, donc en février, à 18h sur Radio Campus Paris.